au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Il est impossible de raconter la vie de La Fontaine autrement que comme une épopée de la simplicité et de la distraction. Impossible de l'étudier en consacrant un chapitre à l'homme, un autre au courtisan ou au poète, tant l'essentiel de cette vie est d'avoir été une et simple.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. C'est un beau combat et qui ne s'achèvera jamais que d'arracher La Fontaine aux seuls manuels enfantins. Non que ces fables ne justifient pas qu'on les donne à aimer d'âge en âge aux bambins successifs. Ils peuvent y trouver une initiation magnifique au plus raffiné des tableautins poétiques, tout en inscrivant l'héritage dans la longue durée de leur mémoire, donc de leur existence future. Et pourtant ce succès même entraîne un danger constant, celui de détourner les adultes d'aller trouver dans cette œuvre magnifiquement profuse une foule de bonheurs intellectuels et de bonheurs sensibles, avec la provende de découvertes inépuisables. Que chacun n'y revienne pas dans son âge mûr, voilà qui serait bien dommage. L'émission que je vous propose ce matin va s'attacher à rappeler que l'art de La Fontaine demeure une source inépuisable de réflexions sur nos sociétés, de réflexions qui sont vivantes comme au premier jour. Réflexion sur les tours et les détours du pouvoir politique, quels que soient les régimes, sur le jeu des représentations que nous nous donnons à nous-mêmes en face du monde alentour, sur le poids de l'argent, sur son pouvoir de fascination, en même temps que sur ses perversités, si l'on tolère sa domination, sur la liberté individuelle et sur la solidarité collective, sur les relations de l'homme et de la nature, enfin, bien avant que le mot d'écologie nous est imposé ces angoisses contemporaines. Patrick Dandrey, mon invité, a parlé fort pertinemment à propos de La Fontaine d'un hédonisme inquiet. Il est professeur émérite à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Ses écrits témoignent de la vertu d'un regard d'aujourd'hui sur une œuvre sans pareille, qui est éminemment française, on la redit ad nauseam, mais qu'on peut aussi, sans grand risque de se tromper, poser comme universelle.
Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune, et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout. Personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants, et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille, en nageant comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix, « Et Cérès, que fit-elle ? Ce qu'elle fit ? Un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi ? De contes d'enfants, son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul, entre les Grecs, il néglige les faits. Que demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée par l'apologue réveillée se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en nul honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant.
Patrick Dandrey, bonjour.
Bonjour, Jean-Eugène.
Nous venons d'entendre de Jean de La Fontaine, Le pouvoir des fables. C'est un extrait du livre 8, c'est la fable 4, lu par Marcel André sur Paris Inter, le 7 février 1957. Je n'ai pas besoin, j'imagine, de vous dire pourquoi j'ai choisi ce départ.
Ah, c'est un départ qui est une série d'encadrements, puisque nous avons à l'intérieur des fables une fable qui s'appelle Le pouvoir des fables, et dans laquelle on entend qu'est récité une fable pour nous dire l'intérêt qu'il y a de réciter des fables.
On peut appeler ça une construction en abîme, peut-être.
Je n'osais pas le dire, c'est une construction en abîme. Et elle a l'avantage de se terminer par un vers merveilleux qui est à propos du monde qui est vieux, il le faut amuser encore comme un enfant. Et si je peux me permettre de commencer notre émission par un faux sens, on peut se le permettre parce qu'avec La Fontaine on dérive tout le temps, j'entendrai volontiers dans ce « il le faut » certes une concession, il faut bien amuser le monde comme un enfant, parce que les gens sont pas sérieux, mais j'entendrai peut-être aussi une nécessité. Il faut peut-être aller chercher dans chaque adulte l'enfant qui sommeille, parce qu'il y a une part de songe, une part de poésie, une part de grâce, de charme, qui existe en chacun de nous, à condition que nous nous laissions aller à la part de puérilité qui est en nous, à la part d'enfance qui est en nous. Et donc, les fables ne s'adressent ni tout à fait à des adultes, ni tout à fait à des enfants, mais à la part d'enfants qu'il y a dans les adultes, et peut-être aussi aux futurs adultes qu'il y a dans les enfants. La Fontaine, c'est l'homme de la synthèse.
Eh bien, nous voilà exactement au point où je souhaitais vous entraîner, du côté de cet équilibre. Je pense que Démosthène, il s'agit probablement de lui, que Démosthène avait dans le brio magnifique de son éloquence, ce genre de procédé à disposition.
C'est-à-dire que nous étions déjà en démocratie et donc le peuple se conduisait déjà de manière, je n'ose pas dire puérile, mais enfin disons un peu infantile. Alors il avait besoin que des gens très sérieux lui tinssent un discours qui est un discours pour enfants. Et à partir de là, peut-être se mettait-il à écouter les conseils nécessaires pour la résistance de la démocratie contre l'impérium de Philippe de Macédoine. Effectivement, c'était une question très grave qui était ici traitée d'une façon apparemment légère.
Ce qui peut frapper et stimuler d'entrée de jeu, c'est que à partir de cette fable sur les fables, on voit comment la limpidité charmeuse de son œuvre, en fait je vous cite en disant cela, et la naïveté apparente de la bonhomie de La Fontaine, qui paraissent vraiment couler de source, cache en réalité plus d'un secret. Et c'est de ce secret que nous allons aujourd'hui nous mettre en quête.
Sans espoir, évidemment, de lever le mystère. Mais au moins en essayant de le circonscrire, nous ne pourrons peut-être pas expliquer, mais donner à nos auditeurs une idée, une perception de ce qu'il y a de profond, de mystérieux, d'inaltérable et d'éternel dans la pensée, dans l'art, dans l'écriture de La Fontaine.
Comme toujours, il faut chercher, sans que ce soit une manière d'épuiser le mystère, quelques clés dans l'histoire du personnage, dans son origine. On peut même trouver déjà quelque chose comme une ambivalence.
Il était fils de drapier. Un peu comme chez les Poquelin, on était tapissier, on était drapier chez La Fontaine, à croire que tisser les étoffes amène à tisser des textes, et je crois même que c'est l'étymologie du mot texte. Donc nous sommes véritablement dans du tissage. Mais la différence
c'est une loi,
entre...
C'est une loi qui pourrait porter votre nom. La loi de Dandrey.
Je veux bien, je l'accepte.
C'est entendu.
Et à cette différence près que ce que Molière a réussi, c'est-à-dire à gagner beaucoup d'argent et à accéder à une très grande notoriété, La Fontaine l'a fait un peu à l'envers, puisque parti d'une famille qui était en voie d'anoblissement, qui avait un capital considérable, il a réussi en une trentaine d'années à se ruiner. Et c'est un cas un peu original parce qu'à cette époque, on avait plutôt tendance à reproduire, à rester dans les rails, à s'élever très très lentement. Chez La Fontaine, on prenait le titre d'écuyer, on entrait lentement dans la noblesse au fur et à mesure des générations. Et lui, d'un seul coup, il a réussi à tout perdre. C'est assez moderne d'ailleurs, cette diversité de sa vie, qui correspond d'ailleurs à sa diversité de personnalité, à la diversité de son œuvre. Il l'a dit, chez lui, tout est divers, il aime la variété, il s'y attache, et le secret de cette ruine, très étonnante, puisque à la mort de son père, il avait tout de même consenti que son oncle, qui était un homme de finance, prit en charge la complexe question de l'héritage, et lui s'était contenté de 70 000 livres de rente, ce qui était beaucoup. Alors je pense que tous nos auditeurs se disent tout de suite, mon Dieu, combien cela peut-il faire en euros? Je refuse absolument de le faire parce que tous les historiens me tomberont dessus, je vais très entre nous vous dire à peu près ce que ça me semble représenter.
Ah, vous dites que vous n'allez pas le dire, mais vous le dites quand même.
Oui, c'est une figure de rhétorique, mais avec La Fontaine, on fait toujours comme ça. On dit qu'on ne le dit pas, mais on le dit quand même. Je pense que ça fait quelque chose entre 10 et 15 000 euros par mois, vous voyez, à peu près. Toutes choses égales, c'est-à-dire que les dépenses n'étaient pas les mêmes, etc. C'est très difficile de savoir. Mais croquer ce magot, il fallait tout de même le faire.
D'ailleurs, sa fameuse épitaphe, rédigée par lui-même, le dit explicitement, je vous la rappelle. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fonds avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser, deux parts en filles dont il soulait, ça veut dire avec coutume de... Deux parts en filles dont il soulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. C'est un peu forcer le trait tout de même.
C'est-à-dire que c'est à moitié vrai, à moitié faux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a effectivement mangé le fond avec le revenu. Chaque fois que son oncle lui proposait des placements qui auraient rapporté à long terme, il demandait de l'argent frais. Et on se demande comment il a réussi, enfin, si j'ose dire réussir, comment il a réussi à perdre cette fortune. Et j'ai ma petite hypothèse dans une confidence qu'il fait à travers un de ses personnages. Alors les confidences sont toujours parées, on ne sait jamais si c'est vrai. C'est dans les Amours de Psyché et de Cupidon, un personnage qui s'appelle Polyphile, et qui dit une chose qui semble quand même assez proche de la vie et des goûts de La Fontaine. « J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne. Enfin, il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. »
Vous êtes spécialiste de la mélancolie dans la littérature, est-ce que je me trompe ?
Oui, alors justement, cette petite touche de mélancolie m'intéresse beaucoup chez un souriant comme La Fontaine, de même que la mélancolie m'a intéressé chez un rieur comme Molière. C'est l'art des contrastes. Et il est intéressant que dans cette liste, beaucoup de choses correspondent à ce qu'est La Fontaine. Cette part d'inquiétude que vous évoquiez, de mélancolie, le goût des livres, vous savez qu'il a même écrit un poème en dédiant à l'évêque de Soissons un quintilien qu'il lui offrait. On s'offrait des livres, c'est un cadeau de livres. On sait qu'il aime la musique, il a même écrit un opéra avec Lully. Ça s'est mal passé, mais enfin, il aimait la musique, il a écrit des airs de cour. On sait aussi qu'il aimait l'amour, il a toute une réputation de joyeux compagnon et il le montrera dans certaines de ses œuvres. Nous avons ses contes qui sont un peu lestes.
Il y a d'ailleurs une fameuse anecdote comme quoi il est allé une fois voir sa femme quand même en près de Château-Thierry où il l'avait installée. Mais finalement, par une suite de hasards étranges, il ne l'a pas rencontré, il est revenu sans l'avoir vu.
Il y a énormément d'anecdotes légendaires. Il y a la même chose pour une abbesse de Mouzon qu'il aurait bien voulu rencontrer, mais il y avait des soudards dans la campagne. Alors, il lui présentera ses dévotions une autre fois. Et le premier des mots de l'énumération que j'ai donnée, n'oublions pas, c'est « J'aime le jeu, l'amour, les livres et la musique ». Et le jeu, c'est peut-être le secret de cette perte. On se ruinait beaucoup au jeu à cette époque-là. Et il est tout de même étrange d'imaginer l'auteur des fables à mettre entre toutes les mains, puisque notre ministre est en train de les distribuer aux élèves de collège. Excellente initiative.
Une douzaine, je crois.
Oui, illustrés et qu'il donne sous forme de petits livrets pour les vacances.
Choisis selon quels critères ?
Aux élèves de France. Or, je pense que ce sont des fables qui sont relativement variées pour ne pas perturber trop des élèves qui sont très jeunes, mais qui sont en même temps des fables familières, élégantes et charmantes. Et donc, je trouve amusant qu'un auteur de fables soit en même temps, par sa personnalité, peint comme, disons, un chaud lapin, et en même temps, un joueur invétéré. C'est étrange, comme s'il y avait eu dans les fables une sorte de compensation. Alors que chez La Fontaine, tout est double, vous savez que c'est un auteur très religieux et en même temps un auteur très, très grivois.
Il a apparemment même pendant quelques mois songé à devenir religieux lui-même.
Exactement, et dans un ordre, l'oratoire, qui était un ordre d'enseignant. Et c'est assez significatif, n'est-ce pas, que celui qui deviendrait l'enseignant des collèges par ses fables ait voulu, à 20 ans, entrer dans les ordres. Alors ça n'a pas duré très longtemps.
Il se peut que dans ses contes, dont vous disiez à juste titre qu'ils sont aussi exquis que légèrement licencieux, que dans ses contes, il est tiré parti de cette expérience, puisque beaucoup de ces œuvres-là se passent dans des couvents, que le mystère qui entoure et le charme qui peuvent entourer en particulier les nonains.
La fiction rejoint la vie.
Alors je voudrais vous conduire maintenant, Patrick Dandré, assez vite à ce qui, pour un homme qui a manqué d'argent, évidemment, est paru indispensable, c'est-à-dire se mettre sous la protection d'un grand, ce qui était le cas de la plupart des écrivains du moment. Et comme d'autres, il s'est un peu fourvoyé puisqu'il a choisi comme protecteur le surintendant Fouquet, celui dont le faste a offusqué la vue de Louis XIV et qui a mal fini, qui a été rejeté brutalement hors de la cour. Ce point de départ l'a en quelque sorte vacciné contre un excès de courtisanerie, ou est-ce que je me trompe ?
Non, je crois que ce fut un fourvoiement extrêmement utile, profitable et, je dirais, très accordé à sa personnalité. Il est entré chez Fouquet sans doute par l'amitié d'un de ses anciens coreligionnaires en beuverie dans les cabarets et surtout en écriture de vers galants, qui était Pélisson, qui était devenu le premier commis du surintendant des finances. Et puis aussi par son oncle par alliance, Jeannard, qui était un des hommes de confiance de Fouquet. Et il a trouvé chez Fouquet une cour. Une cour où régnait le goût des vers légers, de la poésie de circonstance, des vers charmants. Nous les trouverions un peu superficiels, mais ils ont dégrossi son écriture, ils ont affiné, assoupli son art, ils ont développé son talent de conteur, et il a, par la pension poétique qu'il livrait à Fouquet tous les ans ou même tous les mois, il a en quelque sorte épanoui une part de son génie qui n'est sans doute pas la plus profonde, mais qui était indispensable pour que la profondeur pût à son tour émerger de son écriture.
Il est passé par la convention pour arriver au sens pareil.
Par les circonstances, je dirais, la poésie de circonstances, les petites choses. Par exemple, une ode anacréontique, c'est très élégant, sur le fait que Madame Fouquet avait accouché dans un carrosse sur la route de Toulouse. Vous voyez, ce ne sont pas des faits qui sont définitifs.
Il est distrait en même temps puisqu'il croit qu'il s'agit du second fils alors que c'est le premier. En
fait. Alors oui, il se trompe sur le nombre des enfants.
Ce qui prouve qu'il était déjà dans la lune.
C'est très significatif. Et il est charmant que Fouquet ait précisé la chose. Et c'est le second aspect, si vous voulez, de ce mécénat, c'est qu'il y a entre eux une relation de familiarité qui renouvelle ce qu'il y avait dans la familiarité, par exemple, d'un Marot avec François Ier. C'est-à-dire que c'est un mécénat à la manière de la Renaissance, à la manière des grands princes de la Renaissance. Il y avait chez Fouquet quelque chose du goût de la Renaissance. Vaux, le château de Vaux.
Ça termine par une fête absolument splendide.
Bien
qui
sûr.
A contribué à hériter le roi.
Oui, alors cette fête a été le point d'orgue à la fois de la grandeur et de la chute de Fouquet. C'est presque une tragédie.
On est en 1661.
C'est cela, on est à l'été 1661 et cette tragédie a donné naissance d'ailleurs à une superbe comédie qui est Les Fâcheux, que l'on a fait jouer et qui est une comédie de Molière mise en musique par Lully. C'est là qu'on a inventé ce genre qu'on appelle la comédie-ballet. Ça a été une fête somptueuse qui était comme un sacre de Fouquet qui espérait devenir Premier ministre et qui était la rencontre finalement de deux modalités qui ne pouvaient pas s'entendre dans l'histoire, deux modalités mécéniques. Le mécénat des grands seigneurs à la façon de la Renaissance, celui de Fouquet, et le mécénat d'État qui va naître sous Louis XIV par l'intermédiaire de Colbert.
La Fontaine va de gré ou de force être conduit à s'adapter au second mécénat. Il ne réussira d'ailleurs que modérément.
Il s'est pris les doigts dans la charnière. C'est un peu cela.
Mais du même coup, nous lui devons des réflexions sur le pouvoir et sur la cour et sur les courtisans et sur la courtisanerie qui peuvent aujourd'hui encore sonner assez contemporains.
Le problème du mécénat est un problème constant. Mécénat d'État ou mécénat privé, c'est une réalité de tous les jours. Et le problème de jusqu'où peut-on aller dans l'éloge et le remerciement, c'est une question définitive. Et effectivement, il semble bien que La Fontaine ait eu envie, lorsque l'enfant royal, le dauphin, est parvenu à l'âge de 7 ans, d'entrer dans l'équipe qui avait vocation de l'instruire. Et un fabuliste, c'est fait pour ça. Il y aura même, on le sait, à Versailles, un labyrinthe des fables, où on prétend, c'est une légende, que Bossuet, gouverneur du prince, l'emmenait contempler les fontaines qui représentaient les fables d'Ésope. Comment La Fontaine a-t-il pu ne pas entrer dans cette affaire? Il a même fait une sorte d'offre de service à travers ce récit des amours de Psyché et de Cupidon qui contient des éloges vibrants de Louis XIV et de Colbert, mais il avait une façon de s'approprier à ce nouveau mode de mécénat et de gouverne de la production littéraire par l'État qui était trop à l'ancienne. Il n'était pas adapté à cette nouvelle façon de faire qui supposait une courtisanerie extraordinaire.
Mais ce qui a enrichi Senef, puisque ça lui a permis, lui, d'avoir ce regard que nous découvrons avec bonheur sur la flatterie comme ressort fondamental. Et c'est le moment de vous faire entendre une des fables les plus célèbres, mais qui est exactement dans le droit fil de ce que vous venez de dire, le loup et le chien. Le loup et le chien, c'est la fable 5 du livre 1, et elle est ici lue par Jean-Louis Barrault dans « Le rideau se lève », une émission du 19 décembre 1948.
Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipé, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin.
Le loup reprit, que me faudra-t-il faire?
Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses.
Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé.
Qu'est-ce là, lui dit-il?
Rien.
Quoi, rien?
Peu de choses.
Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez?
Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore.
J'imagine que le ministre Blanquer a inscrit cette fable immortelle dans le lot de celles qu'il propose aux petits-enfants de France.
Alors je vous avoue que comme le livre est paru, je crois, hier, ou même n'est peut-être pas sorti officiellement, je ne sais pas quel a été le choix. Mais c'est un choix qui serait intéressant. C'est en effet un éloge de la liberté. C'est un éloge de la liberté dont il ne faut pas croire qu'il est constant dans l'œuvre de La Fontaine. Il s'est montré flagorneur aussi, parce que c'est un... sa plume, en tout cas, s'adapte.
Les dédicaces de ses recueils de fables en particulier.
Oui, et il faut dire aussi que s'il a dédié ses fables tantôt aux enfants royaux, tantôt à la maîtresse du roi, c'est qu'il avait obtenu ce droit et qu'il il ne le faisait pas de son simple libre arbitre. Il avait besoin d'obtenir ce droit, et cela signifie que on a sans doute pensé à lui. Et je suppose personnellement que le texte des Amours de Psyché et de Cupidon a été entouré par une promenade dans Versailles qui est un éloge dithyrambique des jardins versaillais, du travail de Colbert et Louis XIV au service de ce domaine, qui laisse penser que peut-être on a pensé à faire venir l'ancien féal de Fouquet dans la nouvelle équipe. Et après tout, Louis XIV a recyclé les artisans de Fouquet, le Brun, le Veau, le Nôtre. Et chez Colbert, on trouvait Perrault, qui avait été un contemporain, père et compagnon de La Fontaine chez Fouquet. On trouve même Félibien, un nom un peu oublié, qui était le descripteur des fêtes de Louis XIV, après avoir été le descripteur de Veau.
Et d'ailleurs, son ami Pélisson, après avoir passé quelques années en prison, est rentré également en grâce. Il y avait toujours de l'espoir, en s'appuyant sur d'éventuels compliments. Et on voit La Fontaine se plier à cette règle, tout en marquant sa distance. Par exemple, dans les obsèques de la Lionne, où un cerf échappe, grâce à sa flatterie, à la punition qui l'attend. Et la fable se termine ainsi. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges. Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont l'appât, vous serez leur ami. Est-ce que c'est complètement désuet?
C'est une chose tellement contemporaine que c'est une constante, en fait, du genre de la fable. C'est-à-dire que La Fontaine a ici adhéré à une pensée qui le précède et qui va le suivre. Et c'est d'ailleurs le propre de ce genre de la fable que d'être un passeur de pensées éternelles, en quelque sorte, ou en tout cas pérennes. Ce sont les travers ordinaires de l'humanité qui sont révélés, mis au jour par les récits de fables. Et il est assez naturel que dans un univers qui est un univers de cour, un univers monarchique, on trouve la satire du courtisan, qui d'ailleurs est partagée. Vous la trouvez chez Bossuet, qui pourtant était très bien vu par Louis XIV. Il ne s'agit donc pas d'une position d'opposant de la part de La Fontaine. Il s'agit simplement d'une insistance, et il le fait avec une particulière acuité, d'une insistance sur un thème, qui est un thème assez global dans les sociétés de cour. C'est dire au roi jusqu'où on peut aller trop loin. Et c'est les mettre en garde contre la flatterie. Mais la flatterie, elle est générale. Regardez le corbeau et le renard. On flatte aussi. Et les flatteurs sont parfois loués parce que, ils parviennent à leur fin. Et donc, je pense qu'il y a, chez La Fontaine, une morale qui n'est pas nécessairement une éthique. Il y a dans cette morale une dimension qui est pratique. C'est-à-dire que la flatterie est un des moyens de parvenir. Il l'indique, il s'en indigne éventuellement, mais il s'en indigne d'une façon que l'on pourrait dire presque conventionnelle, vous voyez. Il y a une convention dans l'indignation qui fait partie du charme de ses poèmes, parce que c'est à cause même de la banalité de sa morale que nous ressentons d'autant plus la manière dont les récits mettent cela en forme particulièrement originale.
Ce que vous nous dites en somme, c'est qu'il est profondément enraciné dans son temps. Ce que vous nous donnez comme information biographique le confirme. Et que, en même temps, il touche à l'universel par le service d'une morale qui est en effet pérenne. C'est vrai aussi pour ce qui concerne le colonialisme. Et peut-être est-il aujourd'hui plus contemporain que ce n'aurait été le cas il y a 60 ou 70 ans. Je pense en particulier aux paysans du Danube qui ressemblent sous sa barbe touffue à un ours qui est une conscience colonisée par Rome, qui était l'Amérique de son temps. Il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétrât alors et ne porta les mains. Et son verbe très libre vibre vraiment de ferveur anticoloniale. Craignez, Romains, craignez que le ciel, quelque jour, ne transporte chez vous les pleurs et la misère, et mettant en nos mains par un juste retour les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse en sa colère nos esclaves à votre tour. Quand on était en train de briser la Chine au XIXe siècle, certains paysans auraient pu dire cela en direction de l'Occident.
Et ça va d'autant plus loin que de nos jours, c'est la Chine qui menace de nous coloniser.
C'est ce que
et qu'il y a
dire.
Derrière la pensée de La Fontaine, effectivement, cette idée qu'il ne faut jamais que on soit trop dur avec les humbles parce qu'un jour ils deviendront les puissants. Il y a une fable qui est caractéristique de ce point de vue et elle est intéressante parce que c'est la seule qu'il n'ait pas reprise dans son recueil. Nous la connaissons par un manuscrit. C'est Le renard et l'écureuil, qui est une fable directement liée au procès Fouquet, et où l'écureuil, qui est l'arme parlante de Fouquet, un Fouquet dans l'ancienne langue, c'est un écureuil, est moqué par le renard, et le renard est prêt de s'emparer de lui, et la fable nous dit que le renard a bien tort, parce que des chiens sont en train d'arriver, qui, à leur tour, vont renverser sa puissance. Et d'ailleurs, cette fable fait partie d'une dizaine qui ont été recueillis en manuscrit, qui sont vraisemblablement antérieurs à l'idée du recueil général et qui laissent penser que l'idée d'écrire des fables est venue chez La Fontaine au moment de la campagne de presse en faveur de Fouquet, mise en procès, et que ces fables qui sont toutes tirées du fabuliste latin Phèdre et non pas d'Ésope, le fabuliste légendaire grec, ces fables sont marquées par la satire politique de Phèdre qui s'emportait contre le favori de l'empereur Tibère qui s'appelait Séjan, un favori extrêmement haï, et l'idée de distribuer dans le rôle de Séjan Colbert, dans le rôle de Tibère Louis XIV, et le pauvre Fouquet comme victime de cette iniquité aurait pu être une des raisons pour lesquelles La Fontaine est venue vers les fables. Il y a, vous voyez, un lien presque immédiat entre la dimension politique et la dimension morale.
Il fallait, dans cette société telle qu'elle était, plaire à la fois au prince et plaire à son public. Et à cet égard, une fois que La Fontaine a trouvé son genre, c'est-à-dire la fable, mais ce fut après les contes, qui avaient déjà eu quelques succès, que son audience s'est élargie de façon puissante. Au-delà de la plupart des ouvrages de son temps, tirés à 40 éditions, plus toutes les contrefaçons qui existaient à ce moment-là, comment peut-on aujourd'hui expliquer ce succès ?
Je disais tout à l'heure que chez Fouquet, La Fontaine a appris dans le milieu de la cour de Fouquet cet art de la galanterie, du ton élégant, cet art de la gaieté dont il disait « Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. » Cet art qu'il a trouvé, ce ton qu'il a su mettre dans tout ce qu'il écrivait, il l'a employé particulièrement pour ses contes dont il a emprunté le thème à la tradition gauloise, au fabliau, à la tradition italienne de Boccace, aux contes à rire. Il n'a rien inventé, mais il a su les dire d'une façon qui est inimitable. Et j'ai coutume de ce point de vue de dire qu'il y a des auteurs à style et des auteurs à ton. Oui, par exemple, Rabelais, Racine, Chateaubriand, on peut les pasticher. Ce sont des auteurs qui ont un style, ça se reconnaît.
Difficile de pasticher La Fontaine.
Ben c'est comme Montaigne, c'est comme Molière, c'est comme Stendhal. Ce sont des auteurs qui ont un ton. Quoi que La Fontaine écrit, je le reconnais. Mais je suis incapable de le pasticher, de savoir pourquoi je le reconnais. C'est le grain de la voix. C'est la souplesse et la fluidité de la phrase. C'est le choix de certains déhanchements. C'est le goût du verre impair. C'est la chose qui marche un peu à côté de sa marche.
Un pas de côté, ça pourrait presque être un sous-titre pour notre émission.
Exactement, c'est exactement cela. Et il y a dans cet art une capacité de vous séduire qui est le ton d'enchantement du conteur. C'est-à-dire que La Fontaine, c'est un peu de ces conteurs qui commencent par « Il était une fois ». Et alors là, tout le monde écoute.
Si Peaudane m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême. On est sensible au fait que le public féminin a beaucoup contribué à son succès. Madame de Sévigné, la première, avait qualifié les fables de divines. Là encore, est-ce de l'actualité ou un péril à nos yeux? Il apparaît souvent comme assez sexiste. Le mot n'existe pas de son temps, mais vous voyez bien, Patrick d'Andrée, ce que je veux dire. Écoutez donc cette fable moins connu que d'autres, qui s'intitule « Les femmes et le secret ». La fable 6 du livre 8, elle est lue ici par Denise Noël, sociétaire de la Comédie française, en public. Et c'est une archive de Paris Inter, le 11 janvier 1957.
Les femmes et le secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce cela? J'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, à case est arrivée. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom des dieux, gardez-vous bien d'aller dévoiler ce mystère. Me moquez-vous, dit-il. Oh, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répondre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre 2, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus de 100.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il est vraiment sexiste, La Fontaine, ou pas, Patrick d'Andrée? Votre avis?
Ben, j'ai envie de vous dire que c'est exactement le contraire. Alors, cette fable n'est peut-être pas la plus significative de ce point de vue, mais quand on prend les contes dans leur continuité, quel est le principe du conte? C'est en gros une jeune femme mariée à un vieux bouc et qui le trompe avec un jeune homme.
En attendant de devenir veuve, nous en parlions la semaine dernière.
Ah, ça c'est le bonheur, évidemment.
Une veuve, alors qu'elle est en larmes, en est plus belle de moitié.
Bien sûr, ça c'est la liberté, et la liberté sans condition, c'est merveilleux. Dans un conte, regardez comme le cocu, battu et content, on trouve un vieil homme qui a épousé une jeune femme, et un jeune homme qui aime cette femme, jeune, et qui... va essayer pendant une nuit de coucher avec elle. Alors la femme, par ruse, dit au vieux que le jeune homme l'attend dans le jardin. Le vieux va monter la garde, évidemment, il trouve personne. Le jeune fait ce qu'il a à faire avec la dame, et puis il descend dans le jardin, il feint d'y rencontrer la dame, et il dit « Coquine, gourgandine, j'avais donné ce rendez-vous pour voir si tu étais fidèle à ton mari, tu ne l'es pas. » Évidemment, il tombe à coups de bâton sur la prétendue femme qui est en réalité le mari. Le cocu est ravi parce que ça prouve que sa femme a été détrompée, a perdu sa cause. Le jeune homme entre en grâce et pourra devenir à jamais l'amant de cette jeune femme. Qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est la même chose que la comédie. C'est un rituel de printemps, c'est le rituel de succession des générations. C'est que les vieux ne veulent pas lâcher les jeunes femmes. Et les jeunes doivent s'en emparer parce que c'est la loi du genre, c'est la loi de la nature. Et donc, chaque fois qu'une femme trompe son mari, ce n'est pas qu'elle est déclarée sensuelle, perverse. C'est simplement que la ruse sert aux femmes à retrouver le flux naturel de la nature, l'ordre naturel, alors que les hommes, surtout quand ils sont vieux, ont tendance à s'arc-bouter pour empêcher que le temps ne s'écoule.
Votre récit, votre évocation de ce conte conduit d'ailleurs à un autre aspect de l'œuvre de La Fontaine, c'est toute une réflexion sur la représentation. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Encore... nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont des nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. Mmh. Ça, c'est un extrait de l'Hirondelle et des petits oiseaux.
Oui. La représentation, alors là, c'est dans la fable qu'on la trouve, mais dans le conte aussi, la représentation s'effectue de biais. Vous savez que la fable est un genre hybride où les animaux sont parlants. On n'y pense pas toujours, mais la fable, le plus proche des genres, le genre dont elle est le plus proche dans le monde actuel, c'est le fantastique. Parce que ces animaux parlants, ils n'existent pas, ils sont en quelque sorte monstrueux. Et il y a chez La Fontaine une manière de nous ramener à la représentation du réel par la représentation de l'invraisemblable. C'est une perversion très curieuse dans l'esthétique classique. L'esthétique classique, ou de nos jours l'esthétique du roman, ça consiste à faire le détour par un miroir fidèle de la réalité pour en déceler ce qu'elle retient de vrai. Dans la fable... dans le conte aussi, dans une certaine mesure, avec ces personnages qui sont très réduits et qui sont évidemment non vraisemblables, le détour s'opère dans un univers artificiel, un univers qui est celui d'une anamorphose, d'un miroir de sorcière, d'un miroir placé de biais.
L'anamorphose, c'est ce qu'on peut lire seulement en le regardant de côté et non pas sans tomber tout droit la lumière du midi.
Exactement, ce sont ces tableaux que l'on regarde de côté et dont Baltrouge Jaïtis disait que c'était des perspectives dépravées. Or, la fable, comme le conte d'ailleurs, c'est une espèce de tableau avec deux points de fuite. La fable animalière, vous avez un point de fuite qui est les hommes et un point de fuite qui est les animaux, mais on mélange les deux. Et dans cette hybridité, il y a une espèce d'exemption hors du réel. Mais cette exemption hors du réel nous permet d'accéder au vrai. C'est-à-dire que le détour par le rêve, parce que c'est une forme de rêve, ou le cauchemar, en l'occurrence, ce détour permet d'accéder à une vérité supérieure grâce à la concession faite au rêve. Nous avons commencé par le pouvoir des fables. Eh bien, c'est la même chose. Il faut passer par peau d'âne pour arriver au discours de Démosthène ou au discours des grands orateurs politiques. Et c'est pourquoi les grands orateurs politiques se servent souvent des fables, qui sont des appuis de la rhétorique.
Ce qui conduit aussi à nous ramène à la dialectique du bonheur et de l'argent. Comment peut-on être heureux tout en finissant... dans un galta, quasiment, comme ça a été le cas pour La Fontaine.
Oui, parce qu'il était protégé. Il était protégé par la femme d'un banquier, mais qui était malheureusement séparée du banquier. Il avait presque trouvé juste, mais il était légèrement à côté. Chez Madame de la Sablière, il avait Couvermy, il avait un salon où l'on parlait, où l'on recevait des voyageurs, où l'on parlait de science. Mais malheureusement, il couchait dans une chambre dont il disait qu'elle était mal lotie et que le vasistas laissait passer l'air.
Vous seriez peut-être déçu si à ce propos, je ne vous faisais pas entendre le savetier financier. Livre 8, fable 2, et c'est Claude Riche que j'ai choisi comme interprète. Il y en a d'autres, c'est un extrait de l'émission Métamorphose sur France Musique, le 5 mars 2001.
Le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages, plus content qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour, parfois, il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur. Il lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ? Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. » Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours, qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit... Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui, dans sa cave, il en serre l'argent et sa joie à la fois, plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. »
Il y a un écho direct de cette morale dans une autre fable moins connue, l'avare qui a perdu son trésor. L'usage seulement... Fais la possession, je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. On a presque envie de regarder vers une prison japonaise.
C'est vrai, fureur d'accumuler. Oui, c'est cette espèce de folie de l'addition qui est caractéristique, je dirais, d'une inflexion que La Fontaine apporte au corpus des fables ésopiques, parce que c'est davantage dans son époque. C'est une époque où la finance a du sens, et dans sa vie même, avoir été le protégé d'un surintendant des finances, ça a du sens aussi. C'est ainsi que dans la fable peut-être la plus célèbre, puisque c'est la première, La cigale et la fourmi, l'originalité qu'il a apporté, c'est cette espèce de métaphore par l'emprunteuse, la prêteuse, avant l'oute foi d'animal, intérêt principal. Bref, la cigale qui, chez les autres fabulistes, se contente de demander de quoi se nourrir. Chez La Fontaine, elle demande à la fourmi en des termes qui sont étranges.
Le temps fait irruption, peut-être.
Oui, elle demande un crédit de subprimes. Et c'est caractéristique aussi du traitement, je dirais, stylistique. C'est une fable en vers heptasyllabique, c'est-à-dire une fable en vers impair, donc un peu boitante, avec un seul vers qui échappe à l'heptasyllabe. C'est dès le premier quatrain, la cigale ayant chanté tout l'été. Se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. C'est une délicatesse merveilleuse, parce que tout l'été, 3 syllabes pour 3 mois. En revanche, quand la bise fut venue, révérence au passé antérieur, un peu oublié, quand la bise fut venue, nous avons là quelque chose qui est beaucoup plus long. Et c'est une description merveilleuse de la conscience du temps. Pour la cigale qui chantait, l'été a passé très vite. Mais quand la bise vient et qu'on mange, on ne mange plus à sa faim et qu'on a froid, c'est très long. Et il y a là une description de l'opposition entre le temps des horloges et le temps que l'on ressent. Or, de quoi un enfant est le moins capable ? De concevoir le temps, d'en avoir la perception, de savoir ce que c'est que l'avenir. Et le fait que la cigale, cette écervelée, demande ensuite un prêt et s'imagine pouvoir rembourser non seulement le principal, mais même des intérêts, l'été suivant. Quelle présomption ! Quelle imprévoyance chez cette imprévoyante ! Que répond la fourmi ? Elle n'est pas sotte. Elle répond : que faisiez-vous autant chaud ? Elle repart sur le passé. L'autre dit : je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez. J'en suis fort aise et bien dansé maintenant. Et vous remarquerez que la fable se termine sur maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'elle va mourir. Et elle va mourir parce qu'elle n'a pas de futur. Et pourquoi n'a-t-elle pas de futur ? Parce qu'elle n'a pas eu conscience que le présent était gros d'un avenir. Il y a donc derrière une moralité assez simple sur la prudence, la prévoyance et la présomption, que l'on trouve dans Le Corbeau et le Renard, qui n'a pas la prévoyance de penser que par présomption, ouvrant son large bec pour faire entendre sa belle voix, il laisse tomber son fromage. Il y a derrière cette morale simple, qui est une moralité élémentaire, une méditation beaucoup plus profonde dès la première fable sur le fait que l'homme est un être de temps, un être de durée, et que la prévoyance et la prévision de cela est nécessaire parce que la vie est organisée autour du temps et que la vie est forcément limitée par la mort, ce qui prouve la profondeur de la sagesse qui est derrière la morale apparente. Mais je vais vous décevoir parce que ce que je viens de dire est totalement contredit par une autre fable. Et ça, c'est le charme de La Fontaine, qui est tout à la fois le blanc et le noir, une chose et son contraire, et qui fait sa modernité, parce que c'est une philosophie tout à fait variable. Il n'y a plus de grand système, vous savez, un peu comme de nos jours, après Sartre et Heidegger, je vois pas de grand système philosophique qui nous organise.
Patience, patience, on verra. Alors, quelle est l'autre fable ?
Je serais mort avant. C'est Le Cochon, la chèvre et le mouton. Un cochon est emmené à la foire, il se lamente parce qu'il sait qu'il va finir en charcuterie, alors que la chèvre, elle, a la chance qu'on aille simplement lui demander son lait, le mouton sa laine. Et La Fontaine conclut sur les cris du cochon que Don Pourceau résonnait en subtil personnage. Mais que lui servait-il ? Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin, et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Alors là, évidemment, par rapport à la moralité de La Cigale et la Fourmi et du Corbeau et le Renard, je suis dans le contraire absolu. Et ça, c'est le chatoiement des fables. Et j'en donnerai pour explication que ce qui intéresse La Fontaine, ce n'est pas les moralités qui nous rappellent des choses élémentaires. C'est de nous enseigner l'art de nous adapter et de les adapter à des situations toujours changeantes. Et ça, c'est d'une redoutable modernité. C'est le sentiment que la situation appelle une sorte de pédagogie de l'appropriation des valeurs éternelles aux nécessités d'aujourd'hui. Nous sommes en ce moment, par exemple, devant un drame qui est celui des condamnations à mort des djihadistes irakiens. Il y a là un conflit de valeurs auquel les démocraties sont confrontées. Je me garderai bien de dire quoi que ce soit dessus, ce n'est pas mon rôle. Mais c'est caractéristique de cette pensée de La Fontaine qui nous dit, en gros, de ce récit, quelle morale tireriez-vous ? Il nous enseigne à approprier nos valeurs éternelles à des situations toujours changeantes.
Ce qui pose la question de l'idée qu'il pouvait se faire d'un certain progrès ou d'une stabilité, et ce qui conduit d'ailleurs, en termes d'histoire de la littérature, à la fameuse querelle des anciens et des modernes, qui domine les années où fleurit La Fontaine. Un mot sur ce point.
C'est en effet un auteur qui a été partisan des anciens, dont l'œuvre est entièrement soumise à la modestie de reproduire les réussites du monde ancien. Je rappelle que...
Fausse modestie, en vrai dire, parce qu'il ne cesse pas de dire qu'il a apporté un charme à ses histoires. C'est Fumaroli, que Marc Fumaroli, qui est un bon connaisseur de La Fontaine.
Excellent.
Et qui a publié en particulier une préface à ses fables qu'on a réédité récemment dans la collection Bouquins. Il disait, d'un côté, une foule de canevas narratifs, interprétés, réinterprétés depuis des millénaires, et de l'autre, une passion alexandrine qui, chez La Fontaine, est la fleur, volontiers éphémère, d'une société spécifique.
C'est vrai.
Vu d'aujourd'hui, on est là au cœur d'une question quant à La Fontaine.
C'est la question de la mémoire. C'est le rôle de la mémoire et la manière de la traiter. Dans notre société qui menace d'être écrasée sous la mémoire, puisque nous avons la possibilité de tout conserver. Nous n'avons jamais eu autant de facilité pour consulter en un clic, comme on dit, ou en une petite poussette, pour rendre hommage à Michel Serres.
Qui vient d'ouvrir, oui.
Jamais eu tant de facilité pour emmagasiner. La question se pose effectivement d'approprier, de rendre actuelle cette mémoire. Et c'est ce que fait La Fontaine. Il prend des fables qui sont antédiluviennes, ancestrales, et dont l'origine remonte au monde de Babylone et de Sumer, au second millénaire avant notre ère, et il l'approprie à une réalité immédiatement contemporaine. Et il nous invite, nous, maintenant, nous, gens du 21e siècle, à faire la même chose avec ces fables et à envisager effectivement la concordance entre ce temps passé, son temps à lui, notre temps présent.
Cette concordance peut d'ailleurs concerner un thème dont nous n'avons pas encore parlé, Patrick Dandrey, c'est la question de ce qu'il n'appelait pas encore l'écologie, autrement dit les relations avec la nature, les relations avec les animaux. C'est le temps où Descartes affirmait que parler des animaux-machines, qui étaient comme des montres, ce qui est insupportable à La Fontaine, et il s'en explique dans cet extrait du discours à Madame de la Sablière, c'est la fin du livre 9, lu par Marcel André sur Paris Inter le 29 mars 1957, tout droit contre Descartes.
Ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle tout se fait sans choix et par ressort. Nul sentiment, point d'âme, en elle tout est corps. Telle est la montre qui chemine à pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. Ouvrez-la, lisez dans son sein. Maintes roues y tient lieu de tout l'esprit du monde. La première y meut la seconde, une troisième suit. Elle sonne à la fin. Au dire de ces gens, la bête est toute telle. Selon eux, par nécessité, sans passion, sans volonté. L'animal se sent agité de mouvements que le vulgaire appelle tristesse, joie, amour, plaisir, douleur cruelle ou quelque autre de ces états. Mais ce n'est point cela, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce donc ? Une montre. Et nous, c'est autre chose. Voici de la façon que Descartes l'expose. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens, et qui tient le milieu entre l'homme et l'esprit, comme entre l'huître et l'homme le tient-il de nos gens, franche bête de somme. Voici, dis-je, comment raisonne cet auteur. Sur tous les animaux, enfants du Créateur, j'ai le don de penser, et je sais que je pense. Or, vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. Cependant, quant au bois, le bruit des corps, celui des voix, n'a donné nul relâche à la fuyante proie, qu'en vain elle a mis ses efforts à confondre, à brouiller la voix, l'animal chargé dents. Vieux cerf et de dix corps en suppose un plus jeune et l'oblige par force à présenter au chien une nouvelle amorce. Que de raisonnement pour conserver ses jours, le retour sur ses pas, les malices, les tours et le change et son stratagème digne des plus grands chefs, digne d'un meilleur sort. On le déchire après sa mort, ce sont tous ses honneurs suprêmes.
On suppose un plus jeune, cela veut dire créer une diversion, oui, en suscitant le départ d'un cadet.
C'est une ruse animalière pour tromper le chasseur.
Qui, oui, démontre bien qu'il ne s'agit pas, aux yeux de La Fontaine, d'animaux-machines. Il dit d'ailleurs ailleurs, dans une autre fable, qu'un cartésien s'obstine à traiter ce hibou de monstre et de machine. C'est dans La souris et le chat huant.
Ce pauvre Descartes, on l'accuse de beaucoup de choses. À vrai dire, c'était un argument plutôt des adversaires du cartésianisme. Descartes n'était pas si sot d'avoir dit que les animaux étaient des machines. Simplement, Descartes plaçait la séparation discriminante et pertinente entre l'âme réflexive, c'est-à-dire ce qui était le domaine de l'homme, et le reste.
Je suis heureux que vous défendiez Descartes à ce micro.
Le Patrick reste doit entre l'instinct et puis le mécanisme, mais sans que l'instinct soit évidemment assimilable au mécanisme.
C'est assez fréquent qu'on caricature quelqu'un pour pouvoir lui envoyer ses flèches.
Exactement. Parce que Descartes avait un système qui était un système, je dirais, massif. Le pour, le contre, le blanc, le noir. La Fontaine développe ici, le sachant ou sans le savoir, et il l'a appris dans le salon de Madame de la Sablière, le système gassendiste, qui est un système par étapes, si vous voulez. Il y a des âmes de plus en plus élaborées. Et l'homme est au sommet de la pyramide avec une âme, c'est-à-dire un esprit qui est réflexif, et puis en dessous il y a l'animal avec son instinct, et puis en dessous et ainsi de suite. Vous voyez, et il y a donc une hiérarchie en quelque sorte qui est progressive. Et vous avez la progressivité contre le tranché. En l'occurrence, il n'est pas certain que la méthode de La Fontaine, son regard, soit forcément le plus moderne. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'à un raisonnement de type abstrait, il oppose ce qu'il pense être une expérience. Il oppose un regard qui est instruit par le contact avec la nature. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était maître des eaux et forêts, on a beaucoup glosé là-dessus, ça n'est pas certain, parce qu'il y a des maîtres des eaux et forêts qui ne sortaient jamais de leur bureau, c'était une fonction administrative.
Mais d'ailleurs, quand il fait un voyage dans le Limousin, on le remarque, il en fait un récit bien connu.
Il envoie des lettres à sa femme, oui, c'est bien une des rares fois où il s'intéresse à la pauvre Marie Éricard. Il est vrai qu'il avait 30 ans quand il l'avait épousée, elle avait 14 ans et demi, donc il l'a regardée de très haut et de très loin. Mais ce voyage en Limousin est intéressant parce que, de même que le discours à Madame de la Sablière dont nous venons d'entendre un extrait, c'est une interrogation sur le regard que l'on porte sur le réel. La Fontaine appartient à une époque qui est une époque de pliure, un peu comme la nôtre d'ailleurs, une époque intermédiaire, entre deux grandes périodes, la Renaissance, deux siècles merveilleux, et puis les Lumières et le XIXe siècle, la naissance de la technique, le progrès indéfini. Et dans ce moment décisif, quelque chose se met en branle que nous appellerions peut-être l'observation scientifique. C'est l'époque où on commence à disséquer des animaux et où, au lieu de répéter ce que l'on faisait dans toutes les zoologies antérieures, des choses qui étaient apprises de tout temps, depuis Pline l'Ancien, depuis le monde romain et grec et Aristote, on se met à regarder chaque animal spécifiquement pour voir de quoi il est composé, de quoi il est constitué.
Et en dehors des animaux, il y a aussi la défense de la nature.
Même chose.
La fable qui s'appelle Le philosophe cite peut apparaître comme un manifeste d'écologie.
Exactement.
Vertueuse. Il blâme ces perturbateurs qui exploitent intensément la nature. Je cite « Contre toute raison, sans observer tant ni raison, lune vieille ni nouvelle », sans observer les lunes. Et il y a aussi ce loup qui, à un moment donné, songe à devenir végétarien dans Le Loup et les Vergers. On pourrait en parler à l'infini. Je crois que nous avons démontré, me semble-t-il, Patrick Dandré, l'actualité de La Fontaine, s'il en était besoin, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, en le restituant, bien sûr, à son siècle. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro. Les deux livres de vous que je voudrais citer, c'est d'abord un très aimable petit livre de la collection Découverte chez Gallimard, qui remonte déjà à 1995.
Hélas.
Enfin, ça prouve la durée de son influence. La Fontaine ou les Métamorphoses d'Orphée. Et antérieurement, vous aviez donné chez Klingsic un livre intitulé La Fabrique des Fables, essai sur la poétique de La Fontaine. J'ai cité Marc Fumaroli, Le poète et le roi, Jean de La Fontaine en son siècle, aux éditions de Fallois, 1997, c'est un livre important aussi. Et puis la biographie très précieuse de Roger Duchesne, Jean de La Fontaine, chez Fayard, en 1990. Et bien sûr, la bibliographie que vous trouverez sur notre site est plus complète. Vous trouverez aussi la référence des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la céruse, nous parlerons de la peinture au plomb, quelque part entre la défense de la santé publique et la puissance des lobbies industriels. Vous allez voir, j'inviterai pour cela Judith Reynhorn. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au sujet suivant, l'histoire des grandes organisations internationales.
La cigale ayant chanté tout l'été.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le concours précieux de Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Dalia à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Anne Delaveau pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et puis l'expression d'une gratitude forte envers la documentation et la bibliothèque de Radio France qui chaque semaine nous fournissent à l'appui de nos émissions des documents nombreux et très utiles. Ce générique, je vous l'ai proposé en écoutant La cigale et la fourmi par Charles Trenet sur une musique de Django Reinhardt, une archive qui remonte à 1941. Et dans quelques instants, Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.
Son moindre défaut, que faisiez-vous autant chaud, lutte-t-elle à cette empreinte. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, allez, dansez maintenant.